Classic 21. The Rock Generation Radio.
Classic 21. 5 years. Hommage à David Bowie. Gabriel Davroy et Laurent Riepi.
Adolescent, David Robert Jones suit des études artistiques. Il y étudie la peinture, la musique, le design. Alors qu'il est encore en formation, il évolue au sein de différents groupes, s'amusant parfois à construire ses propres instruments de musique. Il joue du piano, du saxophone alto et du ukulélé. En 1962, à l'âge de 15 ans, une dispute avec un de ses amis, George Underwood, à propos de la copine de ce dernier, endommage son œil gauche. Sa pupille se retrouve paralysée et incapable de se dilater ou de se contracter en fonction de la lumière ambiante. Son œil gauche aura alors en permanence cette couleur différente de son œil droit, ce qui lui donne un regard particulier, fascinant pour certains, inquiétant pour d'autres. Plutôt que de développer un complexe à ce propos, Bowie se sert de cette coquetterie comme d'un accessoire pour construire les différents personnages qu'il incarne tout au long de sa vie. Mais cet incident n'entache pas l'amitié en fait entre Bowie et Underwood, qui restera un ami proche et qui signe d'ailleurs plusieurs pochettes d'albums de Bowie par la suite. This is ground control to Major Tom. À la maison, si les relations avec sa mère sont parfois tendues, David peut compter sur le soutien de son père, Heywood Stanton John Jones, qui travaille dans une association caritative, quelqu'un de plutôt discret et adepte de littérature.
Mon père était quelqu'un de très bien. Si j'ai hérité de quelque chose de lui, je pense que c'est l'amour des livres. C'était un lecteur avide. Et cela a eu un impact très important sur moi. Je suis devenu un grand lecteur. Ça m'a toujours procuré le plus grand des plaisirs. Je ne peux pas vous expliquer à quel point je trouve cela fantastique de pouvoir s'impliquer pleinement dans les réflexions, les idées de quelqu'un d'autre. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que j'écris. Concernant la musique, il m'a clairement fait comprendre que mes choix m'appartenaient. Il ne m'a jamais poussé à croire que la stabilité financière était quelque chose vers quoi tendre particulièrement. Pour moi, ça a toujours été plus l'idée de faire ce que je ressentais au plus profond de moi. Le faire chaque jour et pouvoir à la fin de la journée y repenser et me dire « ça, c'était vraiment bien ».
Une des grandes fiertés pour David Bowie, c'est que son père, qui nous quittera prématurément à l'âge de 56 ans, fin août 69, aura pu connaître le premier succès de son fils, la sortie du titre « Space Oddity ». Mais le chemin vers le succès sera long, très long. Et dès le début des années 60, le jeune David Robert Jones se lance dans différentes formations qui, malheureusement, ne récoltent pas souvent beaucoup de succès. Il y a les Conrads, Davy Jones and the King Bees. Voilà. Mais aussi en compagnie de ce trio de Lower Third, extrêmement influencé par les Who, qu'adore particulièrement David Bowie. Phil Lancaster, batteur de Bowie à l'époque des Lower Third et auteur du livre At the Birth of Bowie, se souviendra du groupe et de l'influence des Who.
J'étais en Allemagne quand j'ai pour la première fois entendu parler des Who à la radio. Je ne les connaissais pas à l'époque, mais j'ai aimé ce que j'ai entendu. Ils avaient un son très puissant et j'ai adoré. Peu de temps après, je suis retourné en Angleterre et j'ai rejoint David Bowie et les Lower Third. J'étais ravi de voir que Bowie et les musiciens produisaient également leurs propres chansons. Et un son également très puissant. On n'a jamais voulu copier les Who, mais lorsque Pete Townshend est venu nous rendre visite lors de nos répétitions, il a dit qu'un des titres qu'il avait écouté et qui était signé par David sonnait proche de ce que lui faisait. On était juste un groupe avec notre style, on avait un son très dur et on peut dire qu'on était inspiré par les Who. Cependant, on ne reprenait pas des titres des Who sur scène, mais bien ceux des Kings. Donc je dirais que David Bowie et les Lower Third ressemblaient aux Who tout en étant différents.
Après ces différentes tentatives infructueuses au sein d'un groupe, David Bowie se lance en solo. Fini donc David Jones, qui est d'ailleurs le même nom qu'un des membres des Monkees, sorte de réponse américaine aux Beatles dans les années 60. David Robert Jones se dégote alors un nom qu'il ne lâchera plus jamais. Il sera David Bowie. Du nom, et ça c'est une chose connue, de ce fameux couteau Bowie popularisé par le colonel James Bowie au début du 19e. I'm a lover. Un premier album sort en 1967 sous le label Decca. Il est baptisé simplement David Bowie. Il est supervisé par le producteur Mike Vernon, qui vient alors d'enregistrer les aventures de John Mayall and the Blues Breakers, dans lequel évolue le jeune Eric Clapton. C'est un album intéressant, intrigant, mais il est difficile de classer Bowie dans une catégorie, ce qui rend la promotion de l'artiste particulièrement complexe, notamment pour celui qui est devenu son manager, Ken Pitt. Mike Vernon, producteur de Bowie, à l'époque, se souviendra au micro de Laurent Riepi.
I think Ken Pitt, his then manager, was very aware that he was a very unusual talent.
Je pense que Ken Pitt, qui était son manager à l'époque, savait que David représentait un talent plutôt inhabituel. Et je pense que les personnes de Decca, en particulier Hugh et moi, nous pensions qu'il était très différent des autres artistes de l'époque. Mais pour être honnête, à l'époque où j'ai enregistré cet album, je n'aurais jamais pu envisager que 30 ans, même pas, 20 ans plus tard, David Bowie serait considéré comme l'un des plus importants artistes du monde du rock. J'ai juste rencontré un artiste différent, avec une perception très différente des choses, sur comment écrire une chanson, comment raconter une histoire. Il y avait presque une forme de naïveté dans la façon dont il chantait et interprétait un morceau.
Passé l'échec commercial de ce premier album, David Bowie revient en 1969 avec ce qui sera son premier grand succès, Space Oddity. Petite traversée du désert ensuite, avant le triomphe de Ziggy Stardust. Voici Starman en avril 1972. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. Blow it, 'cause he knows it's
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.